Bonjour à tous, bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Arnaud.
Aujourd'hui, nous allons parler du trafic maritime et de la sécurité en mer et de ces tonnes de produits dangereux qui circulent tous les jours sur les mers du monde.
Et oui, à l'occasion de l'ouverture du procès en appel de la catastrophe écologique de l'Erika, nous allons faire le point sur cette question vertigineuse par son ampleur, comme le prouve ce témoignage des responsables de la sécurité maritime à la pointe de la Bretagne, dans l'ouest de la France.
Il y a combien de navires qui passent au large d'ici ?
57 000 bateaux par an, ce qui fait 150 bateaux par jour. Et sur ces 150 bateaux, il faut savoir qu'il y a 700 000 tonnes de pétrole qui passent tous les jours et 90 000 tonnes de produits dangereux.
Comment protéger les côtes et l'océan de ce trafic maritime en constante augmentation? Comment en fixer des règles internationales et les faire appliquer? Autant de questions que nous aborderons avec l'expert maritime Christian Bucher, qui sera notre invité tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
La politique en général, elle a tendance à désavouer les scientifiques. Elle n'appuie pas les scientifiques. Vous avez des scientifiques qui travaillent très bien et qui recommandent à leur patron la nécessité de réduire la pêche, et ils sont désavoués en public par leur ministre.
Mais tout de suite, on décortique l'actualité environnementale, comme tous les jours dans cette première partie. Aujourd'hui, c'est avec vous, Jean-Louis Etienne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin de formation, mais on vous connaît surtout pour vos multiples expéditions, traversée du pôle Nord en solitaire, traversée de l'Antarctique, des rives pendant 4 mois à bord du Polar Observer dans la banquise pour étudier le réchauffement climatique, et j'en oublie. Qu'est-ce qui vous fait courir ou marcher plutôt? Parce que sur les pôles, on marche plus qu'on court,
je pense. Alors, si c'est le médecin qui vous répond, je dis que ça doit bien soigner quelque chose. Sinon, j'ai depuis tout petit, effectivement, je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai 63 ans bientôt, et quand je me retourne, je regarde qu'est-ce qui m'a fait marcher toujours dans cet axe-là. Et autant que ma mémoire me permette d'explorer le passé, j'ai toujours aimé cette notion d'expédition. J'aimais ces récits de découverte de l'Afrique, ces départs à l'Himalaya, ça m'a toujours plu. Comme un gamin rêve de ça, et j'en ai fait ma vie.
Une belle vie. Alors pour commencer ce tour de l'actualité, Arnaud, il y a ce rapport de la Banque mondiale qui remet les pendules à l'heure.
Oui, selon Justin Lin, l'économiste en chef de la Banque mondiale, les pays en développement supporteront 80% des dégâts occasionnés par les changements climatiques, alors qu'ils ne sont à l'origine que d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. C'est l'un des grands enjeux de la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra en décembre prochain à Copenhague. Jusqu'où les pays historiquement responsables du réchauffement climatique seront-ils prêts à aider les pays du Sud? Une conférence préparatoire se tient jusqu'à la fin de la semaine entre les représentants de 180 pays à Bangkok, mais les négociations ont l'air de piétiner sur cette question. Vous suivez tout ça, Jean-Louis Etienne?
Oui, bien sûr, c'est une problématique que je connais, qui est fortement d'actualité, à la fois sur ces deux volets, le volet climatique, mais aussi le volet énergétique, qui est la solution à ce problème climatique. Et vous évoquez que c'est les pays pauvres, enfin pays pauvres. Les pays de la bande tropicale vont trinquer les premiers, tout simplement parce qu'on va vers des accumulations de chaleur et que c'est eux qui vont en souffrir les premiers.
Et puis c'est ceux qui ont le moins de moyens de réponse.
Et puis c'est ceux qui n'ont pas reçu, si vous voulez, de l'humanité, toutes les subsides que nous avons, les pays riches, qui nous ont permis effectivement de consommer ces énergies fossiles sans compter, quoi.
Alors est-ce que vous seriez prêt à poser nu pour sensibiliser l'opinion publique au problème du réchauffement climatique?
Pas vraiment. Je ne sais pas si c'est productif. Ça aide toujours un photographe qui en fait commerce. Ça me rappelle Christo qui habillait, lui qui déshabille. Bon, pourquoi pas. Mais je pense que c'est une problématique extrêmement complexe, quoi. Hein. Et il suffit pas d'alerter sur le réchauffement. Tout le monde sait que ça se réchauffe. La problématique à venir, elle est l'urgence des solutions énergétiques.
Alors, en attendant, il y a quand même des gens qui se mobilisent, hein, puisque 700 volontaires ont posé nu, eux, devant l'objectif du photographe américain Spencer Tunick samedi dernier. Dans les vignes du sud de la France, ils ont répondu à l'appel de Greenpeace, qui a organisé cette manifestation 2 mois donc avant Copenhague. Le but est de rappeler que les impacts des changements climatiques se font déjà sentir partout dans le monde. Spencer Tunick et Greenpeace avaient déjà fait grimper en août 2007 sur le glacier d'Aletsch, que vous connaissez peut-être, à 2300 mètres, 600 citoyens suisses, nus aussi, en haut d'un glacier, là, faut être motivé. Catherine Potet était samedi dans le vignoble français. Elle a interviewé Pascal Hosting, directeur de Greenpeace France, qui lui a expliqué pourquoi c'est la Bourgogne que Greenpeace a choisi de mettre en valeur.
Nous pensons que c'est ici où on est face à probablement l'expression la plus absolue de la notion très franco-française du terroir. C'est en Bourgogne où il y a cette alchimie entre le sol, le sous-sol, le cépage, le climat et un savoir-faire millénaire de l'homme. Et donc, c'est ici probablement aussi où des bouleversements climatiques infimes auront déjà un impact énorme sur la viticulture.
Vous les avez déjà évalués, ces risques ?
Ici, on est déjà, quand on parle aux vignerons, ils nous disent les 10 dernières années, on a récolté entre 2 et 3 semaines plutôt que d'habitude. On a du vin plus alcoolisé et donc on commence déjà à entrevoir ce que ça voudrait dire être viticulteur et produire du vin dans un monde où le climat serait bouleversé.
Donc vous collaborez avec Spencer Tunick, c'est donc la deuxième fois. Est-ce que le NU est une bonne manière d'interpeller l'opinion publique?
Si nous avons fait appel à Spencer Tunick une deuxième fois, c'est précisément parce que nous pensons que des gens qui se mettent à nu, qui se montrent donc de leur côté le plus fragile, que c'est une belle image pour montrer la fragilité de nos écosystèmes, la fragilité de la nature, mais aussi la fragilité de l'homme dans la nature. Et les changements climatiques, ça nous concerne tous, ça aura un impact sur nous tous, et nous nous retrouverons à nu si nous n'agissons pas très bientôt.
Et oui, l'homme à nu au milieu de la nature, ça remet peut-être un peu les pendules à l'heure quand même, non pas simplement l'image, mais le fait que...
Non, c'est un happening voilà. Intéressant, si vous voulez... Je ne sais pas quoi en penser là ce matin à 8h.
Mais souvent on se sent, si vous voulez, scientifiquement très pourvu pour maîtriser la nature. Et là, quand on se met tout nu devant la nature, justement...
Mais je pense que c'est une bonne façon, effectivement, d'alerter l'opinion, on va dire.
Alors, si vous voulez suivre de près ces négociations ou faire pression vous aussi, une vingtaine d'ONG, dont Greenpeace, WWF, Amnesty International et d'autres, ont lancé une nouvelle technique, l'adoption d'un négociateur. Des étudiants d'une vingtaine d'années suivent les délégués d'une douzaine de pays, comme les États-Unis, la France ou la Chine, et à chaque étape de la négociation, les adoptants collent de gré ou de force aux semelles de leur négociateur attitré, et ils leur donnent plein d'informations sur les attentes des citoyens, et ils rapportent sur leur blog les prises de position de celui-ci. Information que vous pouvez trouver sur www.adoptanegociator.org. Vous retrouverez tout ça sur notre site. Est-ce que pour vous c'est un moyen de faire pression, ça ?
Pourquoi pas ? Il faut comprendre que le sujet est extrêmement complexe. Regardez les difficultés qu'on a à changer des comportements au sein de sa famille, qu'on approche à proximité, au sein d'un pays, là on parle de changement planétaire, et c'est comme si on voulait changer de système d'irrigation sanguine le corps humain, si vous voulez. Quand vous voyez que 80% de la ressource énergétique mondiale vient du pétrole, du gaz et du charbon, et qu'en moins de 50 ans il va falloir passer à autre chose, le problème est extrêmement complexe, il n'y a pas les bons et les mauvais. Le problème, c'est que ce CO2-là qui est responsable de ce réchauffement, il agit à l'état de trace, il est extrêmement insidieux, il n'a pas d'odeur, si vous voulez, et il a un défaut énorme, c'est qu'il est lié à l'énergie. Et l'énergie, on en a tous besoin, il y a une croissance, une demande de la croissance, donc il n'y a pas les bons et les mauvais, il y a simplement comment harmoniser le fonctionnement d'un pays, continuer à se déployer, si vous voulez, tout en apportant la réponse. Le sujet est extrêmement complexe, mais moi je trouve qu'il y a intérêt sans arrêt à être au mollet des négociateurs, ça je trouve ça très bien, parce qu'il y a urgence, et il n'y a pas qu'urgence pour le climat, il y a urgence pour les solutions énergétiques.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI en compagnie de l'explorateur Jean-Louis Etienne. Aujourd'hui, c'est l'heure de notre zoom sur l'actualité d'un continent. Aujourd'hui, direction l'Afrique.
Et l'Afrique, c'est Zéphirin Quadio, bonjour.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Alors, vous avez choisi de nous parler de la difficulté de lutter efficacement contre la déforestation en Afrique à travers le conflit qui oppose actuellement au Burundi les commerçants de charbon de bois aux autorités.
Absolument, c'est un sujet plutôt brûlant puisque depuis 2 mois, la police oblige les camions de transport de charbon à réduire de moitié les quantités jusqu'ici autorisées. Résultat, le prix du charbon a doublé. Aujourd'hui, le sac de charbon est vendu entre 14 et 22 dollars, un prix extrêmement élevé pour les Burundais à revenus moyens. L'objectif donc, c'est inciter les consommateurs à se tourner vers d'autres sources d'énergie. En attendant, les commerçants qui se disent floués par cette mesure ont observé une grève de 10 jours pour appeler le gouvernement au dialogue, appuyant cela par l'Association burundaise des consommateurs, une association qui milite aussi pour un usage généralisé des sources d'énergie alternatives. Je vous propose d'écouter le président de cette association, c'est Noël Nkurunziza.
Nous avons donné dans la correspondance qu'on a écrite aux hautes autorités du pays, leur demandant d'abord d'organiser une réunion des personnes intéressées pour voir s'il n'y avait pas moyen d'alléger, par exemple, au niveau des taxes imposées à ces commerçants pour qu'ils puissent finalement récupérer quelques frais en diminuant la quantité qu'ils transportent, mais aussi en gagnant quelque chose au niveau de son commerce. Et la deuxième proposition, nous avons dit qu'il y a plusieurs sources d'énergie qui peuvent être envisagées. C'est notamment l'organisation du commerce de la tourbe, c'est notamment la promotion du gaz, c'est notamment la transformation des déchets. Il y a certains déchets qui peuvent être transformés en bois de chauffage. Voilà les quelques mesures que nous préconisions. Mais malheureusement, ce cadre d'échange a manqué et la situation n'a pas évolué du tout.
Noël Nkurunziza, aujourd'hui, où en est-on ? Est-ce que vous avez le sentiment que les consommateurs burundais que vous représentez sont prêts à aller vers ces énergies alternatives ?
Oui, généralement, ils sont prêts, mais le grand problème, c'est qu'il n'y a pas d'organisation au niveau parce que, en parlant du gaz, par exemple, je pense que le matériel utilisé, il reste cher et rare dans le pays. La commercialisation de la tourbe reste un peu moins libéralisée, si bien que le consommateur burundais, il est finalement obligé d'acheter son bois de chauffage qui est plus cher parce que les autres alternatives que nous proposons ne sont pas disponibles dans le pays.
Voilà, c'était Noël Nkurunziza, président de l'Association des consommateurs burundais.
Autre sujet, la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED, s'inquiète de la mainmise des investisseurs étrangers sur les terres agricoles des pays du Sud.
Oui, selon la CNUSED, cette situation constitue une menace pour la sécurité alimentaire. Dans un rapport publié à la mi-septembre, l'agence onusienne attribue cette ruée sur les terres agricoles à la croissance rapide de la demande de denrées alimentaires en provenance notamment de la Chine, du Brésil ou encore de l'Inde, et au développement des biocombustibles. Déjà au mois de mai dernier, la FAO, autre agence onusienne, avait tiré la sonnette d'alarme. L'Agence pour l'alimentation et l'agriculture avait observé que les rachats massifs de terres agricoles en Afrique menaçaient l'accès des populations aux ressources naturelles. Début juillet, en Italie, les pays du G8 s'étaient mis d'accord pour élaborer un code de bonne conduite en matière d'investissement agricole international, un engagement jugé trop frileux par certaines ONG. Et je rappelle pour terminer qu'en mars dernier, un immense projet d'acquisition de terres agricoles à Madagascar par le groupe sud-coréen Daewoo avait été abandonné devant l'hostilité des populations.
Merci Zéphirin Quadio.
C'est pas du vent.
Jean-Louis Etienne, comment vous réagissez à ces informations ?
Mais quand on sait que 25% du réchauffement climatique est lié à la déforestation, et effectivement que la source énergétique la plus facile, la plus prisée, la plus accessible est le bois. Regardez ce qui est devenu Haïti, un grand désert, c'était une île qui était couverte de forêts. Mais il est évident qu'il y a des ressources énergétiques qui sont totalement inexploitées, le soleil. Mais ça veut dire, ça c'est du transfert de technologie, il faut le ramener la technologie. Alors le gaz c'est bien, le gaz naturel c'est un des meilleurs dans les combustibles fossiles, si vous voulez, en termes d'émissions de CO2. Mais ça voudrait dire qu'il faut mettre en place une structure de distribution. Il faudrait que ceux qui se plaignent qui ne vendent plus du charbon se mettent aujourd'hui à devenir des distributeurs de bouteilles de gaz.
Oui, mais ça coûte de l'argent tout ça, évidemment.
Bien sûr, mais c'est là que les pays riches, c'est ce transfert de technologie, c'est là qu'il faut aider, parce que si on continue à déforester, on a beau limiter les émissions, les réductions de combustion d'énergie fossile, si de l'autre côté on n'arrête pas la déforestation, ça ne sert à rien.
Mais le gaz est en plus une solution à moyen terme, parce que
exactement.
Comme toutes les réserves fossiles...
Mais on est dans une transition, la solution n'est pas tac, elle est dans une transition énergétique qui va durer quelques décennies, quoi.
Alors Jean-Louis Etienne, on le disait au début de cette émission, hein, vous avez fait de nombreuses expéditions sur les pôles. Alors vous allez d'ailleurs en faire une autre en 2010, on va en parler, mais est-ce que vous avez déjà vu les conséquences du réchauffement climatique sur le pôle Nord, notamment?
Ah oui, là c'est spectaculaire. C'est spectaculaire en Arctique, parce que l'Arctique est en train de changer de couleur. C'est-à-dire c'était une région qui était blanche, le sol couvert de neige la majorité du temps, et l'océan, le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé, et l'océan recouvert de banquise, la banquise blanche. Et le blanc réfléchit le rayonnement solaire, donc le protégeait en fait du réchauffement. Aujourd'hui, la neige apparaît plus tard, elle disparaît beaucoup plus tôt, donc vous avez des terres, les terres sibériennes, les terres du Grand Nord canadien, qui sont de plus en plus souvent déneigées, donc elles, c'est des récepteurs, si vous voulez, elles s'effoncent, le permafrost fond, et vous avez l'océan Arctique, qui est de plus en plus, avec des zones d'eau libre, de plus en plus larges, si vous voulez. Alors, quand vous regardez une photo, vous voyez les plaques de glace blanche, et à côté, l'océan. L'océan, il est foncé, il capte la lumière, et il fait fondre par proximité la glace. Donc, il y a un phénomène d'emballement qu'on avait un peu sous-estimé. C'est très spectaculaire en Arctique, oui.
C'est très inquiétant, hein, ce que vous nous racontez.
C'est inquiétant parce qu'on a ouvert la porte du frigo, si vous voulez. On est en train de perdre les frigories au nord, qui sont indispensables pour échanger avec les calories des régions tropicales. C'est tout simple. La machine climatique, c'est l'échange entre la chaleur de l'équateur et le froid des pôles. On est en train de perdre le frigo au pôle Nord, donc ces frigories-là vont nous manquer pour équilibrer la chaleur tropicale.
Alors, en 2010, vous avez l'intention de retenter une expédition polaire en ballon au pôle Nord pour mesurer le dioxyde de carbone. Hein, vous aviez déjà tenté l'aventure en 2008, mais une tempête avait détruit ballon. Ouais, alors, racontez-nous un petit peu.
C'est un autre ballon que je vais prendre, qu'on appelle une rosière. Du nom de Pilâtre de Rosier, qui était l'inventeur français du ballon à gaz. La rosière, c'est un ballon à hélium, et vous chauffez l'hélium plus ou moins pour monter ou descendre. Je vais traverser le pôle Nord en partant du nord de l'Europe, le pôle Nord, et de l'autre côté, en Alaska. Ce sont les courants aériens qui vont m'entraîner. Donc j'ai un routeur qui est spécialiste des courants aériens et qui va me dire, monte à 3000 litres, redescend à 600, remonte à 1200, de manière à prendre les veines de vent favorables.
Vous partez tout seul?
Ah oui, je suis tout seul, oui. Mmh,
toujours
c'est beaucoup
seul.
Plus simple. Non, dans ces régions, c'est beaucoup plus simple, oui, si vous voulez. Je n'ai à m'occuper que de moi-même.
Ce qui ne doit pas déjà être simple.
Vous savez, l'atmosphère n'est pas quelque chose d'homogène. C'est une espèce de millefeuille de courant et les vents ne vont pas tous dans la même direction. Et pour terminer, ce qui me permet de déterminer le courant, ça vient d'un programme qui a été construit après Tchernobyl. On ne savait pas où allaient les poussières radioactives, souvenez-vous. Et depuis, la météo mondiale a mis en place l'étude de ce courant atmosphérique. Et on sait aujourd'hui les directions des masses aériennes en fonction de l'altitude.
Et alors, scientifiquement, ça va nous apporter des informations nouvelles. Il y a pas, ce genre d'études n'existe
alors
pas pour l'instant.
Alors, cette Manassel, le Generally Arctic Observer, est équipé de 3 capteurs. D'une part, une mesure du CO2 atmosphérique. Deuxièmement, le champ magnétique. Et troisièmement, les particules en suspension, ce qu'on appelle les aérosols en suspension de l'atmosphère. Ce sont des mesures qui aident les scientifiques dans leur modélisation. Si vous voulez, on ne va pas faire une mesure, on dit tiens, il y a ça. L'avantage, c'est que je vais sur place avec un appareil de grande précision, qui est plus précis que le satellite, et qui aide les chercheurs dans leur modélisation. Ça conforte, si vous voulez, certains programmes ou ça les infirme.
Et donc vous allez mesurer la quantité de dioxyde de carbone.
La quantité de dioxyde de carbone au-dessus du pôle Nord. Moi, j'ai un appareil, si vous voulez, qui transmet automatiquement la mesure. Moi, je ne suis que le véhicule, si vous voulez, atmosphérique de ces capteurs qui sont au service de la recherche et de la pédagogie.
Merci, Jean-Louis Etienne, d'être passé dans C'est pas du vent. Vous reviendrez au retour de votre expédition?
Oui, peut-être que je vous capterai en onde courte depuis le pôle Nord, parce qu'on reçoit RFI au pôle Nord.
On se retrouve juste après un bref rappel de l'actualité pour parler des tonnes de produits dangereux qui circulent tous les jours sur nos océans à l'occasion de l'ouverture du procès en appel de la catastrophe écologique de l'Erika. À tout de suite.